Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à vous tous qui avez choisi Radio Okapi pour vous informer. Le dollar américain est passé cette semaine de 1300 francs congolais à 1400 francs. Chez certains cambistes, et ils s'observent en même temps sur tous les marchés et autres centres de négoce à travers le pays, une hausse des prix de certains produits de première nécessité. Certains observateurs économiques estiment que ce sont les commerçants véreux qui influencent cette situation. Une autre opinion pense plutôt que c'est un problème d'assainissement des finances publiques. Qu'en pensez-vous? Réagissez sur notre page Facebook et commentez aussi ces sujets à l'adresse pa@radiocapi.net. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook ou nous appeler au 081 890 63 80 ou bien au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie pendant ces 57 minutes interactives. Alain Goy est à la mise en onde, Nico Kalambay à la réalisation de ce programme supervisé par Martin Sebujangue et coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo. Cette émission Parole aux auditeurs est une rediffusion.
Merci à vous tous qui avez posté vos commentaires sur notre page Facebook. Martin, Fabien, Alain, vous êtes les premiers à pouvoir commenter ces sujets parmi les 3000 internautes qui ont consulté notre page Facebook. Merci à vous tous. Martin, vous êtes avec nous en ligne. Vous êtes à Kinshasa. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Julien, bonjour Radio Okapi.
Alors pour vous, vous estimez que effectivement c'est un problème politique parce que quand la politique ne marche pas, il y a notamment ce genre de conséquences.
Oui, Julien, je vois parce que dans votre sujet vous parlez sur les cambistes, les commerçants. Moi par rapport à mon commentaire, je dis c'est la politique. Quand la politique ne marche pas, tout non plus ne marche pas. Je donne un exemple d'un enseignant qui a été payé, jadis, à 100 dollars qui valait 97 000 francs congolais. Pour le moment, cet enseignant-là, qui était payé à 100 dollars, ces 97 000 francs pour le moment ne valent pas même 90 dollars. Comment est-ce que cet enseignant-là peut payer les loyers? Par exemple, ici à Kinshasa, les loyers, c'est 1 dollar. Il faut que cet enseignant-là, qui a reçu 100 dollars, 100 000 francs pour le moment, 110 pour les uns, 120 pour les autres. Et les 120 000 francs ne valent pas la valeur de 100 dollars. Mais à la maison, il doit payer les loyers à 100 dollars. Sur le marché, il doit payer ses biens, ses articles en dollars. Il doit faire convertir le franc congolais qu'il a eu de l'État en monnaie américaine pour qu'il paye les loyers. Alors, si peut-être la politique était bonne, moi je pense que les commerçants, les cambistes, devant boiter les pas. Pendant que la politique n'est pas bonne, c'est pour cela que les commerçants et les candidats suivent les pas de la politique. Lorsque la politique était bonne, avec la croissance macroéconomique, qui n'était que sur papier aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Donc, les commerçants et les candidats n'emboîtent que le pas de la politique.
Merci beaucoup Martin d'avoir appelé et aussi d'avoir insisté sur des aspects politiques qui seraient selon vous à la base de cette situation. Et là vous avez illustré par le salaire d'un fonctionnaire aujourd'hui, un fonctionnaire qui touchait 100 dollars qui équivalait à 95 000 francs congolais il y a 6 ou 10 mois, mais aujourd'hui avec un taux qui avoisine 1300 francs, vous avez vite compris, en tout cas selon vos propos, que ce salaire a perdu sa valeur véniale. Merci beaucoup Martin d'avoir appelé. Fabien, vous êtes à Kinshasa également, bonjour et bienvenue. Pardon, vous êtes en Bandaka Alain. Alain, vous êtes en Bandaka, bonjour.
Bonjour JR, bonjour aux fidèles auditeurs de la radio Capi. Qui nous occupe à ce moment à travers le monde.
Oui, vous avez dit, vous, il s'agit là d'une mauvaise foi des opérateurs économiques, dans votre message.
Pas du tout, pas du tout. D'abord, avant d'écrire dans mon message, on doit d'abord relever les trois éléments probants qui caractérisent notre monnaie, le franc congolais. Le premier élément, c'est on dit que la monnaie est l'attribut de la souveraineté. Le deuxième élément, le franc congolais est la monnaie ayant cours légal. Et le troisième et dernier élément est tiré de l'article 170 de la Constitution du 18 février 2006, tel que révisé par la loi de 2011, qui dit le franc congolais est l'unité monétaire de la République démocratique du Congo. Il a le pouvoir libératoire sur tous les territoires nationaux. Comme je l'ai dit dans mon message, le tissu économique est déchiré. Et nous sommes posé la question, qui est responsable de tout ça? Nous avons suivi le premier ministre Badibanga lors de son discours à l'investiture du gouvernement. Il avait soulevé trois points majeurs. Le premier point, c'est la sécurité. Le second point, c'est les élections. Et le dernier point, c'est la stabilité de la monnaie. Lorsqu'il avait accédé au pouvoir, le taux d'échange n'était pas plus de 120. Et aujourd'hui, le taux est en train de galoper du jour au jour. Le franc congolais se déprécie de jour au jour. Monsieur J.R., vous avez dit que je suis en train de responsabiliser les opérateurs économiques. Pas du tout, J.R. Pas du tout, J.R. Puisque nous avons un gouvernement. Nous avons des lois. Même dans l'émission principale de la Banque centrale du Congo, l'article 176 de la Constitution, c'est quoi la Banque centrale du Congo parmi ses missions? C'est la sauvegarde de la stabilité de la monnaie, M. Pierre. Mais si aujourd'hui nous constatons qu'il y a flambée de plus sur le marché. Cela est dit à quoi? Qui en est responsable, Julien?
Voilà, merci beaucoup. Vous avez posé une question très fondamentale. Qui est responsable de cette situation? Est-ce la banque centrale? Est-ce sont les opérateurs économiques ou d'autres personnes, notamment ceux qui en fait influencent dans les secteurs informels? Merci beaucoup. On va écouter également un enseignant qui est aussi le responsable du syndicat, Jean Bosco Puna, qui est avec nous parce qu'il y a tout à l'heure Martin qui évoquait le cas de fonctionnaires et aussi des enseignants qui touchait à l'époque 100 dollars, qui équivalait à 95 000 francs congolais. Aujourd'hui, on est déjà au-delà des 120, donc il y a déjà des difficultés. Jean Bosco, vous nous avez rejoint. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, J.R.
Est-ce que vous partagez l'avis de Martin tout à l'heure, qui évoquait la difficulté que prouve actuellement l'enseignant lorsqu'il touche son salaire? Le salaire ne répond plus et n'a plus le pouvoir d'achat.
Oui, tout à fait, J.R. Je crois que le sujet est très intéressant. Et il est important que nous puissions véritablement l'aborder parce que à la longue, il faut trouver des solutions. Déjà, il faut dire que l'enseignant touche un salaire qui est resté fixe depuis 2006. Après les négociations que le syndicat avait eues avec le gouvernement, eh bien, le salaire était indexé à 100 dollars. Donc, depuis 2006 jusqu'à ce jour que cela soit rappelé ici, ce salaire n'a jamais bougé, ce salaire n'a jamais changé. Alors que lorsque nous avions été dans ces négociations, le gouvernement avait fait la ferme promesse de pouvoir changer le salaire des enseignants à chaque année, à tout moment que nous avons un problème au niveau du coût de la vie. Et donc, c'est lamentable qu'aujourd'hui, nous ayons cette situation. Alors, il avait également été convenu à cette époque-là qu'on aura l'actualisation de cette référence en dollars, c'est-à-dire à tout moment quand les francs congolais devraient connaître des problèmes, eh bien on allait indexer au dollar, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Il y a un autre rappel qu'il faut faire, c'est la venue de la bancarisation. Le gouvernement, je crois en 2009, nous a promis que avec la bancarisation, évidemment, nous avons accepté la bancarisation parce que ça allégeait un peu la souffrance de nos camarades. notamment qui sont dans les provinces. L'objectif de cette bancarisation était la maîtrise des effectifs, la récupération des masses salariales à la suite des fictifs qu'on avait constatés, et puis l'amélioration substantielle de l'enveloppe salariale. C'est-à-dire que avec la bancarisation, on devrait tant soit peu améliorer les salaires qu'on avait négociés en 2006 qui donnaient l'équivalent de $100 à un enseignant. Malheureusement, cet objectif n'a pas été réalisé. Alors aujourd'hui, regardez, l'enseignant moyen touche plus ou moins 95 000 francs congolais, qui à l'époque équivalait $100. Aujourd'hui, $100 a galopé à 140 000 francs congolais. Et donc, nous avons presque perdu 40% du pouvoir d'achat. Avec comme conséquence, donc, il y a la démotivation au travail. Les enseignants multiplient des extramoroses pour nouer les deux bouts du mois et ça entraîne la contre-productivité. Voilà les problèmes auxquels on est confronté. Et nous, en tant que syndicat, nous ne pouvons que demander au gouvernement de résoudre, de répondre les premiers, la première attente des enseignants, c'est qu'on puisse indexer les $100 qu'ils touchaient, parce que là, il n'y a pas augmentation des salaires, qu'on puisse lui donner 140 000 francs congolais comme les dollars s'échangent aujourd'hui. Ça, c'est la première attente, avant que nous ne puissions parler de l'augmentation des salaires qui pourra venir après. Voilà ce que je peux dire hier. Donc, au niveau des enseignants, c'est un véritable désarroi.
Est-ce que vous pensez, ben oui, en tant que syndicaliste, vous pensez que, comme l'a posé la question tout à l'heure, Fabien, qui en est le responsable aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que ce sont des opérateurs économiques véreux qui travaillent ou qui influencent l'instabilité du taux d'échange?
Non, mais il faut dire que les responsables numéro un, mais c'est connu, il n'y a pas à chercher. Nous savons que le pouvoir organisateur de tout ça, le pouvoir public est là, c'est l'État. Pour les cas des agents et fonctionnaires de l'État, pour les cas des enseignants, eh bien, l'État, c'est lui notre premier employeur. Et avant le gouvernement de Sami Badibanga, eh bien, il y avait le gouvernement de Matata qui l'avait précédé, qui avait mis une certaine batterie de mesures pour sécuriser les francs congolais. Bon, apparemment, nous avons l'impression que toutes ces mesures ont volé en éclats. Il faut absolument que le gouvernement qui est là puisse travailler, parce que sinon, ça sera la grogne sociale. Dans tous les états-majors des agents et fonctionnaires de l'État, tous ceux-là qui travaillent et qui sont payés par l'État congolais, eh bien, c'est la même difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est le même désarroi. Donc, le premier responsable, c'est le pouvoir public, et nous ne pouvons demander qu'à notre employeur de regarder cette situation de près, parce que l'attention apparemment est tournée ailleurs et on laisse le fonds social. Il y a un auditeur qui venait de rappeler tout à l'heure que parmi les missions, il y a le social des Congolais qu'on devrait améliorer, et c'est chaque gouvernement qui arrive, qui revient sur le même refrain. Et pour les cas des agents et fonctionnaires de l'État, je crois qu'on n'a pas besoin de tuer l'administration. Il faut absolument qu'on regarde attentivement cette question pour qu'on indexe d'abord les salaires des agents de l'État avant de pouvoir penser à l'augmentation qui, me semble-t-il, pourra être très difficile pour eux par rapport au contexte. Donc nous pensons que le gouvernement va accéder à cette demande pour que l'enseignant continue à faire le travail, parce que sinon c'est vraiment difficile. Tout ce que nous prenons comme qualité de l'enseignement, lorsque l'enseignant n'a rien, n'est pas motivé, n'a absolument plus rien. Aujourd'hui, il y a des enseignants qui ont été chassés des maisons parce qu'ils n'arrivent plus à atteindre les $100. Celui qui payait $100, il ne peut plus le faire. Celui qui payait $50, eh bien, il a des problèmes parce que la petite réserve qu'il avait est presque rognée. Donc je crois que c'est une situation qui interpelle à plus haut point le gouvernement actuel et on doit trouver des solutions.
Merci beaucoup Jean Bosco d'avoir appelé et aussi d'avoir accepté d'intervenir depuis Matadi là où vous êtes. Mais nous retenons pour vous qu'il faut, par rapport à la situation qui prévaut actuellement, l'enseignant a perdu 40% du pouvoir d'achat et il était convenu en 2006, lorsqu'il y a eu cette augmentation ou l'équivalence de salaire d'un enseignant de $100 à 95 000 francs congolais, qui aujourd'hui ne représentent pas pratiquement la même valeur. Il fallait indexer chaque fois, actualiser à chaque fois qu'il y avait une référence publiée par la Banque centrale. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, dommage, mais vous souhaitez que le gouvernement puisse un peu y travailler pour permettre à ce que le fonctionnaire ou l'enseignant puisse retrouver son pouvoir d'achat qu'il a perdu de 40% pratiquement. Merci beaucoup Jean Bosco. Fabien, vous êtes à Kinshasa, bonjour et bienvenue.
Bonjour à Radio Kapi, bonjour à tous les invités.
Voilà, Fabien, pour vous, dans votre message, vous avez également insisté, comme les autres, qu'il y a une mauvaise foi des opérateurs économiques. Et il s'agit, bien entendu, dans cette situation, l'effet de l'offre et la demande.
Oui, comme je l'ai souligné dans mon message, nous avons une domination de l'environnement économique par une taxation en dollars, même dans les services étatiques. C'est-à-dire, pour aider les départs taxés en dollars, pour aider les départs vendus en dollars, notre économie se retrouve aujourd'hui dominée par les dollars. Nous avons des transactions qui ne se font qu'en dollars. Et comme tout est le départ, vendu, taxé, tout est fait en dollars, et lorsqu'il y a maintenant rareté de cette monnaie sur le marché, tout ce qui était acheté, vendu et tout ce qui était fait en dollars se retrouve maintenant à l'obligation d'être payé au même prix, au même prix auquel on achète aussi les dollars. Nous avons par exemple le billet d'avion. Nous avons par exemple la douane, les impôts, les frais académiques, le billet de la CENI. À cela, j'ajoute aussi les loyers. Tout cela constitue une forte demande de la devise dans notre pays. J'évoque aussi la mauvaise foi des opérateurs économiques, notamment l'augmentation des prix des produits qui ne sont même pas achetés en dollars. Je cite entre autres le produit des premières nécessités. Nous avons par exemple des produits achetés au village comme la farine, le maïs, la braise, les cacahuètes et bien d'autres choses qu'on achète au village, qu'on n'achète pas en dollars. Vous vous rendez compte que par mauvaise voie, ces produits augmentent les prix sans suivre, sans que ce sont des produits qui sont achetés suivant le taux de dollars. À cela, je proposerais que l'État congolais veille aux transactions qui s'effectuent en Afrique. C'est-à-dire, l'État doit chercher à placer des combistes à l'entrée du pays, aux aéroports et aux frontières. Lorsqu'il y a des opérateurs économiques ou des commerçants qui amènent du dollar, ils doivent laisser cela à l'entrée du pays et prendre le franc congolais. Voyez, à l'entrée de l'Angola, du côté des Loufou, lorsque vous entrez, vous prenez des points A et c'est les dollars qui restent. Dans votre continuité en Angola, vous aurez à utiliser que les points A. En Afrique du Sud, les dollars restent à l'aéroport. Et c'est la monnaie sud-africaine que vous prenez pour continuer vos transactions. Donc, cela facilitera ce que la dédollarisation économique soit, dédollarisation soit
effective. De notre économie.
Oui.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fabien, d'avoir appelé. Nous retenons pour vous que tout est parti de la nature de notre économie, l'économie qui était dollarisée. Et lorsque on se retrouve dans une situation où il y a rareté de cette devise étrangère, il y a perte de pouvoir d'achat. Et vous liez cela également à l'effet de l'offre et la demande. Et vous plaidez pour que l'État puisse être un peu regardant et vous proposer une partie de solution en surveillant de près nos frontières qui sont du reste poreuse, 9 frontières, il y a de l'entrée des devises, il y a beaucoup de situations qui se passent là-bas, sans que l'État puisse être un peu regardant. Et vous demandez qu'on puisse quand même aussi renforcer en fait, les services de contrôle à l'entrée pour permettre à ce que l'État puisse user de son pouvoir régalien de souveraineté. Merci beaucoup d'avoir appelé Fabien. Ingénieur Valérie, vous êtes à Kindu, bonjour et bienvenue.
Bonjour JR, bonjour à tous les amis auditeurs de la radio Okapi.
Vous avez suivi Jean Bosco tout à l'heure qui parlait des enseignants qui ont perdu à peu près 40% de leur pouvoir d'achat dans cette situation. Et Martin qui, au fait, se posait tout à l'heure la question à qui revient la responsabilité de cette situation qui y prévaut. On sait tout de même que la monnaie est l'attribut de souveraineté. La monnaie est également par rapport à la loi du 18 février 2006, donc je parle de la Constitution, sur l'article 170, qui donne au fait la monnaie, les pouvoirs, son pouvoir régalien. Alors, le tissu économique est responsable de tous ces lades. Est-ce que vous les partagez?
Oui, il y a à boire et à manger dans tout ça. Nous devons d'abord reconnaître, c'est vrai, oui, quand on dit que la monnaie, c'est l'île des missions, la sauvegarde de la monnaie, c'est l'île des missions régaliennes de l'État, c'est vrai. Mais l'État, pour bien assurer ses rôles, l'État a créé un bras, une branche, un organe technique appelé la Banque Centrale. C'est la Banque Centrale qui joue maintenant ses rôles en tant que technicienne en la matière. Alors, oui, je vous écoute.
Oui, Valérie, allez-y.
Ok. Maintenant, vous avez même entendu notre ami de Kinshasa qui demande qu'il y ait des cambistes partout dans des frontières, tout ça. Vous comprenez que jusque-là, quand nous parlons des devises dans ces pays, quand nous parlons de toutes ces transactions, les banques sont ignorées. Les gens ne savent même pas que Donc, à tous ces milliers-là, même au niveau des aéroports, mais on doit trouver les guichets des banques. Ce ne sont pas les cambistes qui doivent faire ce genre d'opérations. J'avais suivi le président des cambistes qui avait dit dernièrement comment ils avaient reçu l'argent suite de la banque centrale. Ils sont allés dans des banques et on leur a dit qu'il y avait des billets qui n'étaient pas corrects et tout ça. Est-ce que la banque centrale a à traiter avec les cambistes de Oshoué, de les châteaux, ainsi, donc tout ce monde-là? Mais non. Pourquoi l'argent a perdu la valeur? D'abord, qu'est-ce que la valeur? La valeur, c'est la mesure d'un bien ou d'un service. Lorsqu'on parle de l'argent, ne voyons pas les billets, mais voyons ce qui est derrière les billets. C'est que ce dont le billet est capable de procurer comme satisfaction en termes de biens et services à son détenteur. C'est ça la valeur de la monnaie. Et quand on entre dans l'étude de la valeur, on trouve qu'il y a bien des éléments objectifs et des éléments subjectifs. Je vous donne quelques exemples des éléments subjectifs. Nous avons appris qu'en Afrique du Sud, à la suite de deux grands événements, un, Jacob Zuma a été défendu par la famille de notre ami là de l'ANC qui est décédé, qui ne pouvait plus se présenter au deuil. Deuxièmement, le limogeage de son ministre des Finances, qui avait une crédibilité auprès des investisseurs, a fait que les rentes sud-africains ont chuté de valeur. Il n'y avait rien d'objectif, mais ce sont des valeurs, ce sont des éléments subjectifs qui interviennent dans la dépréciation de la monnaie. Avec tout ce que nous apprenons, les guerres par-ci par-là, les phénomènes comme Wenasapu, tout ça, ce sont aussi des éléments. Aujourd'hui, même ces importateurs, on nous a parlé par
exemple... Oui, mais est-ce que Valérie, est-ce que vous êtes d'avis que cette situation ne date pas d'aujourd'hui? En tout cas, si mes calculs sont bons, c'est depuis 6 ou 7, huit, voire même 8 mois déjà. Tout est parti lorsqu'on annonça la démission d'ailleurs de Matata 2, la démission du gouvernement Matata 2. La situation était devenue très confuse parce qu'il y avait des mesures prises par le gouvernement en ce qui concerne les opérations bancaires et aussi au niveau des dépenses publiques. Il y avait déjà un problème à ce niveau. Et cette situation s'est étendue jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous estimez que c'est lié à la politique?
C'est lié à la politique en grande partie. J'en viens maintenant. Vous parlez du gouvernement Matata. Oui, c'est depuis ce moment-là que nous avons commencé ce genre de chute. Mais c'est parce que il n'y a pas un rapport entre l'exportation et l'importation. Donc les devises sont mal gérées. Qui a besoin des devises et pourquoi en faire? Les devises, on en a besoin, c'est pour le commerce international.
Voilà. Oui, ingénieur Valérie, restez un peu en ligne. Le temps peut-être d'accueillir Rachidi, qui est à Kinshasa, qui parle également au nom des syndicalistes et qui nous a appelé d'ailleurs. Monsieur Rachidi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fonctionnaire et aussi membre du syndicat de fonctionnaires. Comment les fonctionnaires, se tiennent face à cette difficulté, à cette situation qui prévaut actuellement sur le plan économique?
Bien, tous les fonctionnaires congolais à travers le pays ont toujours ressenti la manière dont la monnaie est gérée. Ce n'est pas un secret. Mais cependant, nous sommes en train de déplorer aujourd'hui que le modique salaire qu'on lui donne ne lui permet pas de rentrer au marché et de pouvoir vivre. Or, la première mission, outre, n'est-ce pas, les missions techniques et économiques, comme le disaient mes prédécesseurs, hein, mais il y a la mission de la protection de la vie des citoyens. Donc, il devait y avoir automatiquement augmentation des salaires, parce que pour permettre aux agents fonctionnaires de l'État de pouvoir survivre dans cette période de crise économique, parce que ce marasme est connu, hein, déjà au départ du Premier ministre Matata. Il nous a annoncé que le budget qui était de 8 milliards, hein, était rabattu à 4 milliards et demi. Donc, ça signifiait qu'il y a chute. Donc, quelles sont les dispositions qui ont été prises dans l'entretemps par le gouvernement pour que les citoyens soient protégés, ils puissent continuer à vivre et que... Bon, donc ce malaise-là est ressenti par tous les agents fonctionnaires de l'État. Mais cependant, nous ne voyons pas une réaction qui s'en suivrait logiquement des autorités du pays quant à vouloir, n'est-ce pas, augmenter les salaires, parce que depuis un temps, on nous augmente seulement 10 000, 15 000 par mois. Et nous sommes arrivés à une sorte de parité, parce qu'on aime bien un peu ces mots-là, hein, le taux des dollars 93,
oui, dollars, dans la convertibilité,
avec les 80 000, 100 000, 90 000 qu'on donnait aux agents fonctionnaires de l'État. Mais aujourd'hui, avec la chute, n'est-ce pas, de la monnaie nationale. Bon, donc, vous voyez que les ressentiments des fonctionnaires étaient un ressentiment qui a aussi, n'est-ce pas, des impacts sur le plan politique et économique, parce qu'il n'y a plus d'acheteurs, il n'y a plus de consommateurs de biens, et encore... hein, sur le plan de la gestion, mais la corruption et les détournements doivent se multiplier.
Merci beaucoup, Rachidi, d'avoir accepté de parler avec nous. Docteur Ngakoye, parce que nous restons, je crois qu'il n'y a pas que les fonctionnaires ou les enseignants qui sont dans une situation de perte de 40% de pouvoir d'achat. Il y a également le médecin. Vous nous avez rejoint dans ce débat. Docteur Ngakoye, vous êtes le président du SINAMED.
Oui,
vous êtes avec
nous. Tout à fait.
Est-ce que les médecins sont épargnés dans cette situation?
Pas du tout. Les médecins ne sont pas épargnés. Les médecins qui sont fonctionnaires de l'État ne sont pas épargnés. Pas du tout. Alors, mais ce que nous déplorons, c'est ce qu'on vient de dire, parce que je crains que ce pays, il n'y a pas une politique salariale cohérente et qui peut aider. Parce que depuis la chute de Front Congolais, le gouvernement ne prend aucune disposition pour soulager les cris d'alarme de médecins, les cris d'alarme de fonctionnaires. Et nous allons dans une situation qui va nous amener à la dérive. Imaginez que le médecin soit incapable de payer le loyer, de faire étudier ses enfants, et vous demandez à ce médecin-là de travailler correctement dans la sérénité quand il est pris dans des troubles sociaux, parce que socialement, il n'est plus un homme. Il est incapable d'assumer ses responsabilités. Mais est-ce que les gens le savent? Et cette situation n'est pas seulement pour le médecin, cette situation est pour tous les fonctionnaires de l'État.
Alors les médecins
ont... On nous paye un salaire qui a été calculé quand le dollar équivalait 930 francs congolais. Et aujourd'hui, le dollar est à plus de 1400 francs congolais.
Alors les médecins ont publié un communiqué quant à ce... Qu'est-ce que vous avez demandé au gouvernement pour aider le fonctionnaire de manière générale à récupérer ses pouvoirs d'achat qui est perdu? Jean Bosco le disait tout à l'heure qu'il était convenu en 2006 déjà, quand il y a eu des discussions entre les parties prenantes, l'employeur et l'employé, donc qu'il fallait à chaque fois indexer les salaires par rapport à la situation qui prévalait sur le plan économique.
Oui, ces négociations-là, on les disait, mais c'est écrit dans quel accord ou dans quel protocole d'accord. Parce que j'ai très peur que le salaire de fonctionnaires de l'État congolais s'est fixé toujours en francs congolais. Ce que nous demandons, c'est que le gouvernement de la République fasse un réajustement. Excusez-moi, monsieur le journaliste, ce n'est pas possible. Je crois que le président de la République a prononcé les problèmes du social depuis 2012. Et jusqu'à ce jour, nous ne faisons que s'enfoncer dans la misère. Je crois que le président de la République doit donner des instructions claires à son gouvernement pour que les choses aillent au mieux. On ne doit pas seulement par des mots et par des discours dire « vous allez vous occuper du social ». Et le gouvernement passe, il ne s'occupe pas du social. La situation se dégrade. C'est pour cette raison-là que nous avions dit que nos politiciens sont des aveugles. Ils ne voient pas la misère du peuple. Ils sont des sourds. Ils n'entendent pas les cris de misère de notre population. Je ne comprends pas quel est le rôle d'un gouvernant dans ces pays.
Voilà, docteur Ngakoye, je crois que le SINAMED a communiqué suffisamment quant à ce, avec un communiqué qui a été lancé pour dénoncer un peu la situation qui prévaut de manière un peu générale dans tous les centres de santé ou encore des hôpitaux où les médecins se retrouvent actuellement dans une certaine difficulté et qui ne leur permettent pas vraiment d'avoir un pouvoir d'achat conséquent. Merci beaucoup docteur Ngakoye et d'avoir appelé 081 890 43 15 081 890 49 69 ou encore les 081 890 63 80.
Congolaises et Congolais, l'enrôlement des électeurs tire à sa fin. Faites-vous enrôler dans le centre d'inscription de la CENI le plus proche de votre habitation, dans votre commune ou dans votre groupement.
Que doit faire la personne qui n'a aucune des pièces demandées pour se faire enrôler?
La personne qui n'a aucune des pièces exigées doit se présenter au centre d'inscription avec 3 personnes déjà enrôlées dans ce centre pour témoigner de sa nationalité et de son âge.
J'ai ma nouvelle carte d'électeur, je voterai, et toi?
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Nous avons notre invité en ligne, professeur Grégoire Bakandeja, qui est avec nous. Bonjour professeur. Voilà, d'entrée de jeu, je disais tout à l'heure avec les auditeurs que les dollars américains est passé cette semaine de 1300 à 1400 francs congolais chez certains cambistes, et il s'observe en même temps sur tous les marchés et autres centres de négoce à travers le pays une hausse des prix de certains produits de première nécessité, pour dire que un bon nombre de citoyens ont perdu en tout cas le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, certains observateurs économiques estiment que ce sont les commerçants véreux qui influencent cette situation. Une autre opinion pense plutôt que c'est un problème d'assainissement des finances publiques. Qu'en pensez-vous, professeur?
Ah, monsieur Gérard, le problème est un peu plus complexe. Hein. Vous savez, lorsqu'on parle de la délocalisation de l'économie, c'est le fait que dans le pays, l'unité monétaire n'est pas la monnaie ayant référence légale, mais c'est une monnaie étrangère. Alors, le pouvoir d'achat diminue du fait de la dollarisation parce que les finances de l'État ne sont pas saines. C'est en ce moment-là on parle de l'assainissement des finances publiques, c'est-à-dire un ensemble de mesures qui permet de ramener la gestion de l'État, donc la gestion de l'économie, dans les normes pour éviter des gaspillages. Voilà, en fait, comment on peut résumer la situation actuelle, parce que lorsqu'on réfléchit à l'économie, on doit d'abord établir la liste des acteurs et en définissant et en les caractérisant. Alors quand vous regardez dans un pays, il y a 5 acteurs économiques. Vous avez le producteur qui assure la production, c'est-à-dire l'investissement, c'est-à-dire l'accumulation du capital qui permet la production. Ensuite vous avez les consommateurs, c'est-à-dire ceux qui reçoivent un revenu, et l'emploi en le partageant entre la consommation, l'épargne et les impôts à payer à l'État. Alors quand vous voyez les consommateurs ici, parmi les consommateurs, il y a les travailleurs, ceux qui ont un revenu et qui n'arrivent pas à épargner parce qu'il y a perte du pouvoir d'achat. Vous avez l'État qui doit dépenser en percevant les impôts et s'endetter quand il en faut. Mais pour dépenser, il faut avoir des ressources. Si l'État n'a pas de ressources qui proviennent de l'activité, des activités menées par les agents économiques, il y a là un déficit qui doit être compensé quelque part. Vous avez le quatrième acteur le plus important, c'est la banque centrale qui doit gérer la masse monétaire. Alors, notre banque centrale gère quelle masse monétaire? La masse monétaire en francs congolais, monnaie en cours légal, ou bien en devises étrangères, alors sur lesquelles elle n'a pas de maîtrise. Alors c'est la raison pour laquelle il y a une réglementation de change qui est en vigueur dans le pays, qui permet aux acteurs économiques qui détiennent les devises étrangères et ceux qui en cherchent de s'entendre sur la valeur qu'il faut donner à la monnaie. Le dernier acteur, c'est le monde extérieur, c'est-à-dire les agents économiques qui ne relèvent pas du pouvoir de l'État, c'est-à-dire ceux qui utilisent les devises étrangères. Alors, comme il dit, le reste du monde achète nos exportations et vend des importations. Mais pour acheter des exportations, il faut qu'il y ait une production. Et s'il y a la production, l'État ne peut s'enrichir que du travail et de la capacité productive de l'ensemble des acteurs qui lui permet, lorsqu'on a produit localement, d'avoir de vendre à l'extérieur, d'avoir des réserves en devises étrangères qui permettent de soutenir la monnaie. Parce que parmi les moyens qui sont utilisés dans le pays, on a d'abord la monnaie qui a cours légal, c'est le franc congolais. Or, le franc congolais n'est pas utilisé dans toutes les transactions. J'ai entendu là un des auditeurs qui vous rappelait la situation qu'on voit dans des pays voisins où on n'utilise pas la monnaie étrangère qui s'arrête à la frontière. Or, nous avons une législation qui permet la double circulation de la monnaie nationale et de la monnaie étrangère. En ce moment-là, il y a une difficulté pour la Banque centrale de maîtriser la masse monétaire, et c'est ce qui conduit à ces dérapages qui conduisent à la perte du pouvoir d'achat du consommateur.
Voilà, alors il y a cet aspect de problème d'assainissement public. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire aujourd'hui? Parce que la situation ne date pas d'aujourd'hui. Il y a un auditeur qui a comparé cette situation qui vient de très loin. Depuis Matata 2, lorsqu'on a annoncé d'ailleurs la démission de ce gouvernement Matata 2, la situation était devenue très confuse avec une multitude de mesures, de décisions, entre autres pas de dépenses publiques. Et c'est ce qui a causé quand même un peu de cette situation. Est-ce que vous partagez cet avis?
Bon, là, je ne peux pas répondre directement comme ça. La situation est un peu plus complexe. Parce que quand on voit la richesse d'un pays, c'est à partir de ce qui est produit localement. Est-ce que localement, nous produisons suffisamment pour la consommation intérieure, pour répondre à nos propres besoins, et peut-être vendre le surplus? Ça, c'est un problème. C'est un problème qu'il faut voir, c'est au niveau de la gestion de l'État. Est-ce que l'État qui dépense, est-ce qu'il dépense rationnellement? Est-ce que ses charges, notamment pour la prise en charge des institutions, est-ce que ce n'est pas ça qui conduit parfois à la surenchère, à l'inflation, parce que l'État dépense plus pour le fonctionnement des institutions que pour l'investissement? Donc il y a là un déséquilibre qui fait que finalement, in fine, on retrouve le pouvoir d'achat des masses qui diminuent.
Alors vous pensez, professeur, que pour récupérer le pouvoir d'achat de masses qui diminuent, il va falloir, comme l'a dit un auditeur avant que vous arriviez dans cette émission, qu'on puisse, chaque fois que l'État puisse indexer, en fait actualiser les salaires par rapport à la situation. Parce qu'aujourd'hui, avec les fonctionnaires qui touchaient 100 dollars lorsqu'il équivalait à 95. Aujourd'hui, on est au-delà de 95. Ça a occasionné cette perte de pouvoir d'achat. Est-ce qu'il va falloir que l'État travaille dans ce sens-là?
Oui, mais il y a l'aspect, vous voyez, dans la valeur de la monnaie, il y a l'aspect psychologique qui est très important. Il y a la confiance aussi, la confiance que le pouvoir d'achat que donne la monnaie nationale permet de répondre aux préoccupations les plus élémentaires. Alors, tout ça, c'est lié notamment à la politique que nous avons adoptée depuis la fin des années 90 en voulant libéraliser notre économie parce que nous manquions de devises pour pouvoir répondre à des besoins d'importation. Mais si, au niveau national, on met l'accent sur la production intérieure dans tous les secteurs, et principalement dans le secteur agricole, pour nous éviter d'importer les besoins, les aliments, les produits de première nécessité. Si vous importez plus de produits de première nécessité, vous diminuez les réserves que vous avez en devises. En ce moment-là, ça a une répercussion sur la valeur de la monnaie. Et voyez par exemple au Congo, nous avons la plupart des produits alimentaires sont importés. Au niveau national, on ne les produit plus. Vous avez le poisson, vous avez même les tomates, ça va être importé, les oignons, etc. Ça vient de l'extérieur. Plus vous importez, plus vous vous appauvrissez. C'est pourquoi il faut localement produire, transformer sur place, ajouter de la valeur aux biens produits localement pour diminuer les importations. Et ça permet d'augmenter le pouvoir d'achat de citoyens. Et je crois qu'il faut en arriver finalement à une véritable dédollarisation, comme on le dit, n'utiliser au plan national que le seul franc congolais dans les transactions, notamment entre les opérateurs économiques. Mais à partir du moment où certaines transactions sont effectuées en dollars, même quand on les effectue en franc congolais, on le fait en franc constant, en tenant compte du dollar, ça contribue à la situation que nous connaissons actuellement. Rappelez-vous, je ne sais pas, vers les années 90, dans ce pays, on ne connaissait pas le dollar. On ne connaissait que le Zaïre monnaie. C'est à partir du moment où la situation économique s'est dégradée suite aux difficultés que nous avons connues, les pillages, les destructions, etc., ça s'apparente à pratiquement la situation actuelle. Absolument. Plus il y a l'insécurité dans un pays, plus on n'a pas une même vision
de
développement
oui.
du pays, ça conduit à des incertitudes une influence sur l'économie nationale. Parce qu'en fait, comme je vous dis, l'économie porte sur quoi, quand on dit l'économie porte sur ce qui est produit, ce qui est vendu, ce qui est échangé. Donc sur un marché. Alors, s'il n'y a pas de marché, vous voyez la grande difficulté. Au début, là, je vous ai parlé des 5 acteurs. Qu'est-ce que chaque acteur doit faire? Qu'est-ce que doit faire le producteur?
Qu'est-ce que
doit faire le consommateur? Qu'est-ce que doit faire l'État? que doit faire la banque centrale qui gère la masse monétaire, que doit, quel est le comportement de l'agent économique extérieur. Moi, je crois que les règles sont inversées au Congo. C'est ça qui
voilà.
justifie.
Alors, on revient à vous, professeur, tout à l'heure, les temps. Ingénieur Valérie, vous êtes avec nous. Est-ce que vous partagez l'avis qu'aujourd'hui, les rôles sont inversés?
Oui, le rôle est controversé. Je préfère terminer rapidement la notion des valeurs que je venais de commencer là. Comme je disais, dans la valeur, il y a des éléments objectifs et subjectifs. Comme élément objectif, nous avons l'activité économique, la puissance du pays émetteur aussi de la monnaie. L'activité économique est paralysée, le professeur vient de balayer mal beaucoup de choses là-bas. Parmi le facteur subjectif, toutes ces guerres que nous avons en politique, ça joue aussi. Quand on nous apprend qu'il y a des faux billets qui sont en circulation, ça joue. Et puis, nous devons aussi savoir une chose. Aujourd'hui, lorsque le peuple n'a pas de pouvoir d'achat, quand il y avait croissance économique, on nous a dit pendant l'époque de Matata Ponyo qu'il y avait des taux de croissance élevés. Oui, la croissance est une notion quantitative, mais le développement, c'est une notion qualitative. Quand il y a déjà croissance, mais quelle est la politique économique, plus principalement la politique budgétaire que l'on avait adoptée pour convertir cette croissance en développement? C'est parce qu'on n'a pas converti la croissance en développement, par exemple en investissant, créer de l'emploi, augmenter le nombre de consommateurs et aussi de l'argent en circulation. Comme ça, il y aurait eu des entreprises, les unes qui allaient travailler pour l'exportation, les autres pour l'importation, et à ce moment-là, on aurait équilibré. Mais puisqu'on n'a pas équilibré, ensuite, toutes ces dépenses, si nous voulons procéder par ce qu'on appelle un quotient budgétaire, c'est-à-dire un coefficient de... Oui ?
Voilà, rapidement, vous citez, Général Valérie.
Ok, donc je voulais dire que, en principe, nous n'avons pas investi, nous consommons plus. Et la plus grande consommation, même quand vous prenez le budget de l'État, le budget, c'est comme l'a dit le prof, c'est plus les dépenses des institutions que l'investissement. Nous devons investir. Parlons même au Katanga avec les mining. Aujourd'hui, en éclatant les mining, la plupart des revenus, mais vont d'abord aux employés, disons, aux propriétaires de ces capitaux. L'État congolais ne récupère que l'État qui impose.
Voilà.
On nous dira,
voilà, parce que vous avez évoqué le cas des mining. Voilà, ingénieur Valérie, parce que vous avez évoqué le cas des mining, nous allons accueillir un autre auditeur. Merci, ingénieur Valérie, d'avoir appelé. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi? Bonjour.
Oui, je suis à Lubumbashi.
Alors, brossez-nous un peu la situation aujourd'hui.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Voilà, brossez-nous un peu la situation par rapport au mining, la situation économique actuelle.
Oui, monsieur Gilles, je vous dirais que l'heure est grave. La vie est devenue intenable. Je viens de suivre monsieur Valérie, je parle du mining au niveau du Katanga. Mais pour le moment, on parle du voie rouge. Il faut voir comment est-ce que le voie rouge est géré. Est-ce que l'argent va tout droit au trésor public? C'est un problème. Le problème qui est là, monsieur Gilles, il ne faut pas nous le dire.
Alors, qu'est-ce que vous proposez, maître Sonville, qu'est-ce que vous proposez? Parce que tout à l'heure, Jean Bosco disait, c'est vrai, il y a un problème au niveau de perte de pouvoir d'achat. Est-ce que vous estimez qu'il va falloir que l'État puisse travailler pour actualiser les salaires des citoyens?
Monsieur Gilles, je voudrais d'emblée qu'il y ait stabilité politique. Lorsqu'il y a stabilité politique, l'économie en pâtit. Mais je me plains par rapport aux syndicalistes enseignants qui sont passés avant moi. Mais la meilleure chose, c'est d'aller en grève. Et d'ailleurs, nous soutenons la grève qui est projetée le 10.
Ben voilà.
Leur voix soit entendue.
Maître Sonville, je crois que il y a des propositions à faire à ce niveau du débat. Nous avons bien posé la question. Est-ce que vous estimez que les opérateurs économiques, ils sont pour beaucoup de choses également? Ou c'est juste le fait, comme l'a dit un auditeur, c'est le fait de l'offre et la demande. Le professeur a développé une théorie, plusieurs batteries de théories sur l'économie. Je crois qu'à ce niveau, vous pensez que il y a quand même une part de responsabilité sur les 5 acteurs économiques.
Non, monsieur Gilles, nous ne le pas. Il n'y a aucune responsabilité par rapport aux efforts économiques. Moi, je poserai la question à ceux-là qui nous gouvernent aujourd'hui. Combien de devises ils mettent à la disposition des opérateurs économiques? Quand est-ce qu'ils parviennent à assister nos opérateurs économiques?
Alors déjà je peux vous donner la réponse.
Ce n'est pas un problème des opérateurs économiques. C'est un problème de nos dirigeants, un problème du gouvernement.
Voilà, merci beaucoup Maître Sonville. Vous avez posé la question sur la réserve d'ailleurs. Je crois que les débats que nous avons eu à faire il y a quelques mois sur la réserve en devises, la Banque centrale qui avait annoncé la chute, même la baisse de ses réserves en devises, notre invité pourrait nous éclairer là-dessus. Est-ce que parmi des situations qui ont causé au fait la situation que nous vivons actuellement, est-ce que ce n'est pas aussi cette perte de quantité des réserves en devises au niveau de la Banque centrale? Nous allons y revenir. Maître Omar, bonjour et bienvenue.
Bonjour JR et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Alors que faire pour au fait améliorer la situation aujourd'hui, parce que les taux d'échange demeurent instables depuis plus de 6 mois maintenant?
Merci beaucoup JR. Avant tout, je salue le professeur Bakandeza qui m'a enseigné à l'UNIKIN le cours de droit des finances publiques, un des meilleurs professeurs de ce pays, digne de ce nom. Alors je m'en vais par rapport aux solutions. Que dire, le professeur a presque tout épinglé, c'était savant. Mais je pense qu'il faudra ajouter aussi à la cause de ce que nous vivons aujourd'hui, la réglementation molle d'échange. Moi, je suis juriste comme le professeur, j'aimerais avoir une approche juridique pour dire que le domaine d'échange tel qu'il est vécu aujourd'hui est déjà réglementé par la loi du 8 janvier 1999, telle qu'est modifiée par les lois qui l'ont complétée. Cette loi fait la différence entre l'échange, le taux d'échange et les marchés d'échange. L'échange en soi n'est pas interdit. C'est l'opération qui consiste à changer la devise étrangère contre une devise locale. Le taux d'échange, c'est le prix par lequel on paye une devise étrangère. Et la loi précise que ce taux est fixé par l'autorité monétaire en convenance, en concertation avec les opérateurs d'échange. En ces jours, il y a un problème sérieux, il y a diversité des taux. Il y a les taux officiels, les taux parallèles qui n'est pas toujours respecté. Et le marché d'échange qui est l'endroit ou les lieux dans lesquels se négocie. Par rapport à tout cela, moi je pense que j'y aurais un problème sérieux de non-suivi de l'application des lois. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Même parlant des causes, on peut encore assimiler cela aux opérateurs d'échange. La loi dit, avant le 99, il y avait seulement la banque centrale et les banques économiques ou les banques commerciales reconnues qui pouvaient changer. Aujourd'hui, la loi a libéralisé les secteurs. Tout le monde peut devenir opérateur d'échange à condition de se faire enregistrer à la banque centrale, d'avoir un numéro d'immatriculation et d'avoir une maison à l'intérieur. Donc c'est deux choses que j'ai ajoutées, une mauvaise réglementation de la Banque centrale et les laisser aller n'importe qui peut changer, peut aussi être la base de la hausse vertigineuse du dollar. Par rapport à la hausse de prix, je pense à part l'échange, il y a aussi un domaine des prix qui est réglementé par la loi de 61 telle qu'elle est modifiée à 83. Cette loi pense que c'est toujours l'autorité monétaire, je suis le ministre de l'économie, qui doit fixer les prix. Qu'il y ait hausse ou baisse du dollar, les prix sont fixés en concertation avec les opérateurs commerciaux. Vous avez parlé des opérateurs économiques heureux. Mais tout se résume très cher hier par l'intervention étatique. On avait avant un état gendarme et depuis je crois un moment, il y a eu intervention étatique. Et lorsque l'État intervient, il intervient soit comme entrepreneur en créant des richesses, en créant des entreprises, mais aussi surtout comme régulateur, en mettant en place des mécanismes sérieux pour réguler. Les taux d'échange doivent être fixés par la Banque centrale, par le ministre de l'économie, de concert avec les opérateurs d'échange. Les prix, à part le prix des produits stratégiques, j'ai l'eau, le courant, les transports publics, mais les autres produits qui sont utiles sont prévus et fixés par l'autorité compétente de l'économie à concertation. Mais lorsqu'on s'évertue à dire qu'il y a hausse des prix, il y a un manque de taux, je me demande, il y a absence de l'autorité étatique. Mais au-delà de ça, comme le professeur l'a dit, il faut aussi voir d'autres aspects comme l'aspect de production. Il n'y a pas de développement sans production, il faudra tout contrôler. Donc moi, je me martèle sur la réglementation sérieuse de change, sur la fixation normale de prix, et tout opérateur d'échange qui fixe un taux qui n'est pas prévu par l'autorité compétente doit être sanctionné. Et tout opérateur économique qui fixe un prix, même s'il y a hausse de dollars, doit être sanctionné. Le jour où on va instaurer la culture des contrôles et des sanctions, je pense qu'on n'aura pas de tels problèmes. Et j'en appelle à la conscience de l'État qui doit urgentement agir, car l'État n'a de sens que s'il contribue aux besoins de la population.
Merci beaucoup. Alors, on revient à vous, professeur. Vous êtes avec nous après avoir suivi Omar, hein, réglementation d'échange et puis la fixation des prix. Quelle est votre réaction?
Bon, une petite rectification, tout simplement. Les prix en RDC maintenant sont fixés librement par les commerçants, parce que depuis 83, on est dans le libéralisme économique. Sauf pour le secteur de l'eau et de l'électricité, où il faut une autorisation du ministre qui a l'économie dans ses attributions. En ce qui concerne la réglementation de change, Il y a eu aussi une évolution parce que depuis 2014 d'ailleurs, il y a une nouvelle réglementation de change qui est en vigueur. Le problème est lié aux acteurs sur les marchés d'échange. Dans les pays normaux, les acteurs sur les marchés d'échange, ce sont les grandes compagnies multinationales, les banques centrales, les banques commerciales, et puis il y a les gestionnaires de portefeuille. Et dans ces marchés-là, on ne retrouve pas des individus comme étant, qu'on appelle ici des cambistes. En réalité, ce qu'on appelle cambistes, ce sont les banquiers. Tous ceux qui ne sont pas banquiers ne sont pas des cambistes. Alors, le problème, tant en matière de réglementation des prix, comme en matière de réglementation des changes, c'est le contrôle que doivent assurer les organismes prévus à cet effet, pour cette tâche. Vous avez l'inspection économique pour le contrôle économique, et puis vous avez, au niveau de la réglementation, il y a la banque centrale qui contrôle toutes les opérations, parce que on doit lui rendre des comptes. Il y a toujours des redevances d'échange qui sont au profit de la banque. Alors, la législation aussi a été modifiée. Par le passé, lorsque le pays produisait davantage et vendait à l'extérieur, c'était principalement les minerais, les ressources provenant de la vente des produits par des agents économiques à l'étranger, ces revenus-là, ces ressources-là, revenaient à l'État. Ce qui n'est plus le cas. Et l'État devait remettre l'équivalent en monnaie nationale pour justement permettre à la monnaie nationale de garder une certaine valeur. Or, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Les gens qui exportent, notamment ceux qui sont dans le secteur minier, etc., qui exportent, les devises qui proviennent des exportations sont leur propriété et ils ne payent à la banque centrale plus de redevances de change. Donc vous voyez qu'il y a déjà ces pressions qui sont exercées par les investisseurs étrangers, non seulement qui bénéficient de beaucoup d'avantages fiscaux, qui rapatrient tout, qui minorent les profits qui sont envoyés vers les maisons mères et dont on n'a pas le contrôle. Tout ça, mêlé à la situation au climat politique, à l'insécurité, ça a une influence sur la valeur de la monnaie. Et alors, comme les gens cherchent des monnaies refuges, ils vont chercher à avoir des dollars.
Est-ce que vous pouvez lier également cette situation
Et c'est ça qui conduit au déséquilibre actuel.
Est-ce que vous pouvez lier cette situation aussi à cette perte de réserves en devises au niveau de la Banque Centrale? Il y a un moment, nous l'avons d'abord évoqué d'ailleurs, cette question.
Mais justement, Monsieur Gier, les réserves de la Banque Centrale proviennent de quoi? Elles proviennent des opérations d'exportation. Plus le pays exporte à l'extérieur, le pays acquiert les devises, et sur ces devises, même si une partie de ces devises reste dans les mains des opérations économiques, c'est leur propriété, le pays s'enrichit parce qu'on a eu à produire pour vendre à l'extérieur. Mais si on ne produit pas, c'est comme maintenant, on ne produit pas. Au Congo, on ne produit pas. La production, c'est simplement pour les opérations de spéculation. On ne produit pratiquement rien. On ne transforme pratiquement rien sur les produits qui quittent notre territoire. Donc, il n'y a pas de valeur ajoutée. Vous n'allez pas demander à une nation d'avoir des réserves si les opérateurs économiques ne travaillent pas.
Voilà beaucoup de choses à dire, professeur. Je crois que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On y reviendra dans un autre dossier, donc l'autre débat, avec les auditeurs, bien entendu. Merci de votre disponibilité, professeur, et d'avoir accepté d'échanger de manière citoyenne avec les uns et les autres à travers le pays et aussi à l'étranger.
Merci.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme également. Merci à Serge qui avait émis le vœu de pouvoir participer à cette émission. Dommage, ce n'est qu'une partie remise. On reviendra à vous, Serge, dans un autre numéro. Merci à Alain Goy qui a assuré la mise en onde de cette émission. Nico Kalambay était à la réalisation de ce programme supervisé par Martin Sebou-Jagué. Une émission qui vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo. Bonne fin de semaine à tous et à toutes. Et nous nous retrouvons en début de semaine prochaine pour un autre numéro de Parole aux auditeurs.
L'émission Parole aux auditeurs que vous venez de suivre était une rediffusion.